Et si c'était vous qui plantiez une forêt? Eh bien, sachez que c'est possible, oui, oui, d'apprendre à faire pousser des arbres en Auvergne. L'association Forêt de Poche, basée à Sébaza, dans le Puy-de-Dôme, prône la plantation de mini-forêts, mais aussi leur étude et leur connaissance. L'objectif, c'est simple, créer des petites forêts urbaines, un principe qui se déploie aujourd'hui partout dans le monde. On compte plus de 1000 sites qui ont déjà utilisé ce principe. Plusieurs projets ont déjà été réalisés par l'association Forêt de Poche, avec l'aide de bénévoles, dont le dernier en date, qui s'appelle Petit Bois Carotte, j'aime beaucoup ce nom. On aura l'occasion de parler de tout cela, de ce projet, de cette expérience, des différentes expériences sur le terrain par les bénévoles, mais aussi forcément de faune, de flore et d'environnement. Et aujourd'hui avec Tania Rougier, membre de l'association Forêt de Poche, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci Tania d'être avec nous sur RVA. Vous serez la porte-parole aujourd'hui de cette association Forêt de Poche, une association créée en 2020 du côté de Sébaza et qui a pour ambition de rayonner quand même plus ou moins sur l'agglomération clermontoise. À quel moment s'est arrivée cette idée de vouloir implanter comme ça dans les villes de l'agglomération clermontoise, un peu partout, des petites forêts urbaines?
Eh ben, mes collègues qui ont créé l'association en 2020 avaient, juste après le Covid, une volonté vraiment de s'investir localement, de créer des projets avec du sens et pour l'environnement, puisque c'était notre fibre. Et donc, est venue cette idée de création de mini-forêts et d'en faire la démonstration. Puisque c'est pas réellement on le verra sans doute, les mini-forêts ont des missions environnementales fortes. On n'est pas encore dans ce niveau-là dans l'agglomération clermontoise, mais c'est un moyen de montrer que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, et de pouvoir ensuite les mettre en place dans des endroits où c'est vraiment très utile.
C'est vrai que pendant le Covid, on a vu naturellement des petites forêts se construire dans nos villes, hein. On a vu une faune inexplorée avec des animaux sauvages reprendre un peu possession en sein des villes, des espèces végétales qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Enfin, il y avait déjà un développement parce que l'humain n'était pas présent. Et là, l'idée, c'était de peut-être prolonger ça aussi et de se dire, bah, la nature en ville, c'est possible.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est nécessaire, c'est essentiel. On l'a bien vu dans le Covid, hein. Dès que l'humain se met en retrait, la nature reprend ses droits. Et je pense que ces mini-forêts, c'est aussi une façon de donner un petit coup de pouce à la nature pour reprendre des droits en milieu urbain et en milieu dégradé.
Alors concrètement, à quoi ça ressemble une mini-forêt? C'est-à-dire, comment ça se construit, sur quel concept, principe ou même format ça repose?
Alors, c'est un principe qui a été mis en place il y a plusieurs dizaines d'années par un agronome japonais qui s'appelle le professeur Miyawaki et qui a mis en place cette méthode pour accélérer la revégétalisation de zones dégradées. Ça représente quoi? Ben, sur une petite surface de 100 mètres carrés à 500 mètres carrés, il ne s'agit pas de reboiser hein, des campagnes, c'est vraiment sur des mini-surfaces, avec une densité d'arbres qui est très élevée. Alors, ça peut faire peur à la plupart des gens qui nous côtoient, mais nous plantons 3 arbres au mètre carré et le professeur Miyawaki plante jusqu'à 5 arbres au mètre carré. Avec évidemment des tailles différentes.
Et ça tient.
Ah, ça tient, bien sûr. Ça tient. Alors, ça tient. Alors, au début, bien sûr, c'est facile parce qu'ils sont petits. Mais au final, ils s'auto-régulent et ils s'entraident, en fait, dans leur croissance. Alors, certaines espèces vont disparaître, d'autres vont prendre le dessus. On va avoir des arbres qui vont pousser très vite, d'autres plus lentement. Et en fait, ils vont s'équilibrer, la mini-forêt va se réguler d'elle-même.
Ça pose pas de soucis au niveau des racines, au niveau de la composition du sol?
Alors, ben, justement, non, ça ne fait que aider. En fait, y a eu des travaux qui ont été menés il n'y a pas longtemps, hein, qui démontraient à tout le monde qu'il y a un réseau de racines qui se fait dans une forêt naturelle avec des interactions entre les espèces et ils communiquent entre eux. Bon, ben là, dans une mini-forêt, on le fait dès le début, puisque dès le début, les racines vont s'entraider, s'entre-communiquer, et donc ça facilite les transferts. Et ça ne peut que aider au final, parce qu'on va aérer le sol, ramener de l'humus avec les feuilles mortes qui vont venir se décomposer directement à l'endroit où les arbres vont en avoir besoin. Et au final, la faune, la flore va revenir et ça va réaérer le sol et réaérer aussi, l'atmosphère autour de la mini-forêt.
Planter des arbres, ça ne s'improvise pas. Si on reprend la méthode Miyawaki, du nom du botaniste japonais qui a mis en place ce concept-là, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où justement on doit décider un petit peu de qu'est-ce qu'on trouve sur ce sol, quels sont les types de flores, d'arbres, d'essences qui sont présentes, faire une analyse du sol, puis un décompactage en profondeur, et après derrière, planter ces arbres avec cette densité d'au moins 3 arbres par mètre carré. Et après, l'idée c'est que ça s'autorégule. Tout ça prend à peu près combien de temps de se dire on va faire une forêt ici.
Faut compter un an à peu près. Comme vous le disiez, il faut identifier le sol. On ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Donc, on identifie un secteur, on va qualifier ce sol, sa composition, son hygrométrie, voilà, et son acidité, son pH. En fonction de ça, on va identifier aussi autour du secteur où quelles variétés d'arbres sont présentes. On appelle des variétés autochtones qui sont là depuis longtemps, qui peuvent résister au changement climatique, qui, voilà, il faut pas non plus qu'elles soient trop allergisantes, faut pas qu'elles soient trop grandes ni trop petites. Donc, c'est quand même un travail de longue haleine. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est surtout de mettre de la variété, de la diversité dans les espèces qu'on va choisir sur ces terrains.
Alors, qu'est-ce qu'on peut planter dans nos mini-forêts puy-dômoises? Si on reprend l'exemple de Sébazat avec le projet C'est ma forêt qui est né depuis 2020. Et puis là, récemment, on en parlera tout à l'heure, vous avez fait un autre projet à Blanza. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme essence, comme espèce, comme plante?
Alors, on a travaillé avec l'INRA et d'autres experts pour identifier les arbres autochtones qui sont présents sur cette région. Alors, on a un sol argilo-calcaire, on le sait tous, historiquement dédié à la production de fruits. On a planté des fruitiers sauvages, des pommiers, des poiriers sauvages, des mûriers, des petites bourdaines, des fusains, mais aussi des plus grands arbres comme des érables, des chênes verts, des chênes pédonculés, une grande variété d'arbres locaux que tout le monde connaît, mais dont on ne sait pas forcément le nom, hein, mais tout le monde les connaît.
Vous cherchez forcément une diversité?
Ah oui,
dans
c'est
les plantes.
Le principe aussi, hein, c'est qu'avec cette diversité, il y a des croissances de rapidité différentes et donc qui vont s'équilibrer. Et puis, si jamais il y a une maladie, le fait que la diversité soit réelle, ça préserve aussi la mini-forêt.
Comment vous trouvez les lieux pour implanter une mini-forêt? Comment ça se décide?
Alors jusque-là, on a eu le support actif des collectivités. On est financé par le budget éco-citoyen du Puy-de-Dôme grâce au vote des citoyens, des Puy-de-Dômois. On est épaulé aussi par les mairies qui nous donnent accès à leur terrain municipal.
Alors justement, parlons-en un petit peu des communes quand même, Tania Rougier. Aujourd'hui, vous officiez principalement sur les communes de l'agglomération clermontoise, plutôt côté nord, Sébazat, Blanza. Globalement, quelle est la place de la nature aujourd'hui à Clermont et dans les villes environnantes?
La première mini-forêt qui a été plantée par Forêt de Poche était dans une zone, peut-être que vos auditeurs connaissent, le quartier des Trois Fées. C'est un quartier tout nouveau qui a été construit très rapidement. Et donc, c'était intéressant de mettre une forêt qui croît aussi très rapidement dans ces terrains qui, du coup, devenaient très urbanisés d'un seul coup. Là, à Blanza, on est plus sur un terrain dans un lotissement où il y a déjà des végétaux liés aux riverains. Et donc, on est moins sur une pression. Par contre, on est sur un terrain qui avait été abandonné pendant plusieurs années et dont le sol n'était pas très actif, si je puis dire. Donc, la forêt va amener un îlot de fraîcheur, va amener de quoi faire un abri à la faune, aux oiseaux, aux petits rongeurs et évidemment aux vers de terre et tous les habitants du sol. Et c'est pour nous une vitrine. Voilà, c'est un peu une vitrine, la forêt Blanza, pour montrer à quel point cette méthode fait croître la forêt très rapidement.
Un sol, ça se réactive?
Ah oui, bien sûr.
On peut, c'est-à-dire qu'un sol n'est pas forcément condamné définitivement. Il y a toujours moyen de le retravailler.
Bien sûr, et c'est toute la méthode de Miyawaki, c'est tous ces travaux qui ont montré que sur des sols pollués, sur des sols bétonnés, sur des sols abandonnés ou même déshydratés depuis des années, il y avait une possibilité de remettre du vivant grâce à cette méthode de mini-forêt.
Alors justement, vous avez parlé d'animaux, Tania Rougier, il y a quelques instants. Est-ce que vous avez constaté un retour de la faune grâce à ces mini-forêts, d'espèces, peut-être même disparu ou invisible?
Oui, on a mis en avant le fait que sur des terrains qui jusque-là étaient vides, on va dire, de faune, où elles n'avaient pas d'abri, on retrouve des écureuils, des petits rongeurs, des oiseaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur ces terrains. Ça fait aussi partie du travail de Forêt de Poche. Au-delà de la plantation, on va continuer d'observer nos forêts, de les étudier pendant 3, 4, 5 ans après leur plantation. Et notamment, on mesure l'activité faune. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas des naturalistes, mais on observe les petites traces comme des accumulations de coquilles de noix ou de noisettes, des petits terriers qu'on peut observer.
C'est un véritable outil de recherche?
Ça peut être un outil de recherche, tout à fait. Alors, on ne l'utilise pas vraiment comme ça, mais ça peut vraiment être ça. Et on va continuer à mesurer la croissance des arbres, à regarder leur comportement les invite à vie des autres, et on voit bien qu'ils poussent beaucoup plus vite que si on les avait plantés tout seuls, un peu isolés au milieu d'un terrain.
Et puis aussi l'impact sur la ville, sur le comportement humain en milieu urbain, voir à quel point une forêt ou une mini-forêt peut changer la donne.
Tout à fait, c'est vraiment aussi une des actions de notre association Forêt de Poche, c'est vraiment de créer du lien citoyen. Donc à travers les plantations, bien sûr, on est nombreux, on a les riverains qui viennent nous aider, mais au-delà de ça, une mini-forêt amène de la curiosité. On vient voir, on vient participer, on vient profiter de l'ombre, des oiseaux. C'est toujours un lien agréable.
Une fois plantée, est-ce que, Tania Rouget, une mini-forêt, ça s'entretient ou est-ce qu'elle vit d'elle-même ?
Alors, ça s'entretient pendant 3 ans, au moins pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, elles sont censées être autonomes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'entretien ? C'est que nous avons planté des arbres très jeunes qui peuvent s'adapter rapidement. Donc, ils sont tout petits, hein, ils font aller au grand maximum 30 cm de haut. Et donc, ils peuvent être facilement étouffés par du liseron. Et généralement, chez nous, quand on a un sol qui est inentretenu pendant quelques années, bah, le liseron vient naturellement. Donc, il faut qu'on désherbe, qu'on paille pour faciliter le maintien de l'eau dans le terrain. Et il faut qu'on arrose si jamais il y a besoin. Pour vous dire, on n'arrose pas souvent, puisque sur la première forêt qui a été plantée en 2021, on a arrosé... Allez, en tout, on a dû arroser 3 fois.
Ah oui, c'est pas énorme.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme du tout. Et vous parliez de désherbage et de paillage. Ça fait partie des actions de l'association. En dehors des plantations de mini-forêts, vous proposez aussi des ateliers, justement pour expliquer comment on désherbe, comment on paille.
Tout à fait. Alors bon, c'est pas très compliqué, donc c'est ouvert à tout le monde. Et ça permet de créer du lien. On se retrouve ensemble une fois par mois autour de la mini-forêt. Et puis, on désherbe, on repaille là où il y a besoin. On vérifie que les arbres poussent bien, qu'ils sont en bonne forme et qu'ils n'ont pas besoin d'autres soins.
Et ça permet peut-être à terme de se dire, bah tiens, je vais créer une mini-forêt dans mon jardin.
Ah oui, alors tout à l'heure on parlait des mini-forêts qui sont installées sur des terrains publics, mais bien sûr on peut les installer sur des terrains privés, il suffit de vouloir. Donc oui, tout est possible. Encore une fois, une mini-forêt, ça prend 6 places de parking, c'est au minimum. Donc c'est pas si grand que ça, donc quelqu'un qui a un petit bout de terrain un peu abandonné, qui sait pas trop quoi en faire... Tout à fait, on peut faire une mini-forêt.
Alors, vous menez des actions au sein de cette association Forêt de Poche, basée à Sébaza, je le rappelle, depuis 2020. Tania Rougier, le dernier en date, c'était celui du week-end du 25 et 26 novembre à Blanza, route de Sébaza. Vous avez créé Petit Bois Carotte. Voilà, oui. C'est le nom de ce projet, de cette mini-forêt que vous avez commencé à planter en lien avec un autre collectif qui s'appelle Rêve Ayon. Parlez-nous un petit peu de ce projet sur ces 2 jours de plantation. Il s'est passé quoi ? Comment on construit une plantation d'une mini-forêt ?
Alors, c'est un travail en amont, hein, puisqu'il a fallu identifier le terrain, le préparer, amener quelques amendements. Donc, ça veut dire de l'apport de sciure de bois, par exemple, et du fumier pour préparer le terrain en amont. Et le rendre plus meuble. Et puis, une fois que les volontaires sont présents, qu'on a identifié aussi les plants et qu'on les a achetés, bien sûr, il s'agit de planter. Donc, chacun avait pour mission de planter son mètre carré ou plusieurs mètres carrés s'ils étaient motivés. Ça crée du lien parce que un mètre carré, c'est pas si grand, donc on a beaucoup de gens qui sont autour. Ça amène un partage des méthodes de plantation, comment on fait, comment on met du pralin, comment on rebouche le trou, comment on paille. Et puis, beaucoup d'enfants aussi ont participé à cet événement de plantation. On est bien contents. Alors, à la fois des enfants des planteurs qui sont venus nous aider bénévolement pendant le week-end, et puis à la fois des enfants de l'école d'à côté qui sont venus participer et planter un arbre.
Oui, parce que vous avez aussi ce volet, en plus d'être citoyen, un volet intergénérationnel. Vous essayez de créer du lien entre nos seniors et nos enfants, si possible. Et puis, vous avez ce volet pédagogique, parce que sur cette action-là, le 3e jour, si je ne dis pas de bêtises, vous avez des scolaires qui sont venus finaliser cette plantation.
Tout à fait. Les enfants de l'école primaire de Blanza sont venus planter leur arbre en périphérie de la forêt. Et ils viendront aussi tout au long de la croissance, enfin, sur plusieurs années, disons, vérifier que leur arbre se porte bien, qu'il est en bonne santé, qu'il grandit bien, et voir ce que ça amène dans la forêt.
Et alors justement, est-ce que les jeunes aujourd'hui, notamment les enfants qui ont participé, ont une connaissance aujourd'hui du monde végétal, de cette flore, ou est-ce qu'on, globalement, on est un peu largué sur la question ?
c'est toujours pareil, ça dépend dans quel milieu on est, mais on a des enfants ici qui sont nés dans la nature. Les volcans d'Auvergne sont quand même à deux pas de Blanzas et Bazac-Clermont-Ferrand, donc on ne peut pas dire qu'on est des petits urbains. Mais c'est vrai que ça se travaille, et donc le fait de connaître les espèces locales, de voir la diversité qui existe, qu'est-ce que c'est qu'un grand arbre, un petit arbre, comment on les plante, ça permet aussi de se responsabiliser et de se sentir impacté dans ce projet de nature.
Alors, un projet de nature qui s'inscrit dans un contexte international indéniable et forcément visible. La plantation de mini-forêts, d'ailleurs, c'est une tendance qui grandit partout dans le monde, corrélée avec l'inquiétude liée au changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au sein de l'association, vous êtes animé aussi, quelque part, par cette inquiétude ?
Bien sûr, on est tous... La plantation d'une mini-forêt, c'est une façon active de se dire... J'essaye à mon échelle de faire quelque chose pour la planète. Alors on peut se dire, oui, planter 200 mètres carrés à Blanza, bon, quel impact vraiment? Mais en fait, c'est une façon aussi de se sentir concerné, d'être actif, d'agir. Et puis même si c'est petit, c'est 200 mètres carrés, c'est toujours ça de prix.
Donc vous n'êtes pas forcément démoralisé quand vous voyez que, je ne sais pas, à l'autre bout de la planète, il y a des ravages sur l'écosystème
Si, bien sûr, je suis démoralisée au quotidien, mais il ne faut pas se laisser abattre. Je ne peux pas dire, ben, tant pis, c'est perdu. On a encore plein de choses à faire dans nos régions. On a encore la possibilité de mettre en place des actions. C'est pas perdu. Donc, commençons dès maintenant.
La part du colibri.
La part du colibri, exactement. Et puis, si en plus, on peut mettre du lien citoyen, s'intéresser à son voisin, écouter ce qu'il a à dire, voilà, partager autour d'une action concrète, ça fait du bien.
Oui, c'est pas qu'un projet, entre guillemets, 100% écolo. Il y a aussi ce volet social, ce volet de proximité.
Oui, le volet citoyen
qui est
très important.
Alors moi, j'avais une vraie question pratique. Si on n'a pas du tout la main verte, est-ce qu'on peut venir planter ?
Bien sûr, bien sûr. Justement, c'est pas grave. On partage nos connaissances, donc la méthode, voilà, on peut vous accompagner, on peut vous expliquer. Forêt de Poche prête le matériel, alors à part les bottes en plastique, mais vous pouvez venir avec...
Oui, on va venir en talons aiguilles, a priori.
Voilà, c'est pas très pratique. Mais bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir comme vous êtes. Et puis, les différentes connaissances des membres de l'association ou des citoyens qui viennent, voilà, se partage. Donc, il n'y a pas de souci. Venez comme vous voulez, quand vous voulez, pour faire ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et ce sera très bien vu.
On n'a pas d'excuses, quoi. Voilà.
Ah bah, ouais. Plus on est de fous, mieux c'est.
Ce projet Petit Bois Carotte, ça y est, c'est fini, du coup, bah, la plantation,
je dirais que ça commence. La plantation est terminée, mais le projet commence maintenant.
3 ans d'entretien.
Voilà, c'est ça. Il va falloir le surveiller, l'accompagner, le bichonner. Et le faire aussi, faire en sorte que les citoyens et les riverains se l'approprient.
Oui, ça c'est important. Et prochaine mini-forêt, on l'attend où 2024,
on
va aller où?
On ne sait pas encore pour l'instant, mais on a bien envie de continuer. Comme vous le disiez, il y a des projets un peu partout. On a entendu des communes du côté de Romagna aussi qui faisaient des mini-forêts. Il y a des entreprises aussi sur la place clermontoise qui vendent le principe de mini-forêt aux collectivités. Donc, ça bouillonne. Ce qu'on voudrait vraiment, c'est le faire dans des endroits dégradés, des endroits très bétonnés ou des endroits pollués, pour vraiment démontrer que la méthode Miyawaki, elle marche aussi dans des zones très compliquées.
Plutôt des zones industrielles, du coup, zones commerciales ?
Des zones commerciales, des friches, des endroits, des parkings, on adorerait s'approprier 8 places de parking pour mettre une mini-forêt.
Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas que des mairies à convaincre. Dans ce cas-là, il y a aussi des industriels,
tout
des promoteurs
fait.
Immobiliers qui sont forcément à rentrer dans le jeu, quoi.
Oui, oui, quelques entreprises aussi commencent à mettre en place dans leur politique de responsabilité sociétale des entreprises des mini-forêts sur leur territoire, sur leur terrain, on va dire. Et on peut aussi créer du lien social autour de ça.
Alors, dernière question, pour les jardiniers apprentis ou pour ceux qui n'ont jamais tenu une pelle ou un râteau dans leurs mains, comment on peut s'inscrire pour les prochaines manifestations? Comment on prend contact avec vous si on est intéressé pour aussi à son tour devenir planteur?
Alors, on a plusieurs façons. La plus simple, c'est le Facebook, hein, Forêt de Poche. Alors, c'est plusieurs forêts dans une poche. Donc, c'est forêt avec un S et poche au singulier. Donc, sur le Facebook et puis par Internet, via l'adresse mail forêtdepoche@gmail.com.
Et puis allez faire un tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a quelques photos des différentes manifestations, en plus des prochains ateliers. Ça vous donnera peut-être envie de voir comment on plante et comment on partage aussi, parce que y a le moment du repas, il y a le moment des discussions. C'est pas que être la tête dans le sol. C'est aussi très
important le lien social. Et d'ailleurs, on remercie encore Révaillon de nous avoir accompagnés avec leur cuisine de rue lors de la plantation des 25.
Oui, c'est eux qui ont fait le repas. Hein,
oui, voilà, c'était délicieux. On était au soleil, dans la rue. C'était vraiment très agréable et très convivial.
Et ben voilà, pas d'excuses, vous aussi, venez planter. Merci beaucoup Tania Rougier d'avoir été avec nous.